Please take your seat. We will come.
Thomas Schneider prend la parole. S'il vous plaît, revenez à vos places. Nous allons reprendre notre réunion d'ici peu.
Okay, thank you very much. Welcome back.
Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup. S'il vous plaît, revenez à vos places. Nous allons commencer. Le point suivant. Nous devons être là à 10h30 pour traiter la question de la protection non géographique. Il y aura des gens qui vont venir dans notre salle. Donc, nous devons essayer de progresser un petit peu sur la question des principes opérationnels. Comme vous voyez sur l'ordre du jour, il s'agit de la suite du point de l'ordre du jour numéro 2 que nous avions commencé à aborder déjà samedi. Je vais essayer donc de résumer un petit peu où nous en sommes pour que tout le monde soit dans la même longueur d'onde. Il y a eu un consensus assez clair sur le fait que nous devrions essayer de rechercher un plus grand équilibre et diversité au niveau des vice-présidents. Il y avait eu la possibilité d'augmenter le nombre de vice-présidents à 5. Et nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il fallait donc essayer de refléter cela au niveau des principes opérationnels. Et ensuite, suite à l'expérience que nous avons eue dans nos élections et que nous n'avions pas pu prédire, disons, les incidents qui pouvaient se présenter, nous nous étions mis d'accord sur le fait que nous allions aborder cette question et essayer d'identifier d'autres points qui pouvaient être plus controversés ou plus compliqués. Et ici, je fais référence aux documents d'information préparés par le secrétariat qui regroupe ces problèmes en trois catégories. L'idée, donc, c'est de demander à l'Espagne qui mène le groupe sur les méthodes de travail. L'idée, c'est d'obtenir un consensus par rapport aux points que nous devrions aborder et dans quelle priorité ou dans quel ordre. Et nous proposons de essayer donc d'amender les principes opérationnels en ce qui concerne le nombre de vice-présidents et en ce qui concerne la tenue des élections pour que l'on puisse utiliser ces principes actualisés dans les prochaines élections. Sachant qu'il y a d'autres questions qui pourront nous prendre plus de temps parce qu'elles sont plus controversées. La discussion de samedi a été assez rapide et nous savons que les choses ne sont pas si faciles que ça. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il nous faut avoir 5 vice-présidents. Donc il faut se mettre d'accord pour pouvoir travailler sur les principes opérationnels. C'est le moment maintenant de nous mettre d'accord pour savoir comment nous allons avancer sur cette question. Pour pouvoir au moins aborder les questions les plus urgentes maintenant et faire le reste après. Ou bien, si vous avez d'autres idées pour savoir comment procéder à la révision des principes opérationnels, s'il vous plaît, faites-nous savoir. Je vais donner la parole donc aux membres du GAC pour que vous fassiez donc des propositions, si vous en avez, par rapport à la façon dont on devrait aborder cette question. Donc, voilà, la parole est à vous, vous avez la parole. Trinité Tobago prend la parole. Je voulais dire par rapport aux principes opérationnels, nous avons choisi 3 vice-présidents. Nous allons choisir 3 vice-présidents dans la réunion de Dublin. Si nous ne changeons pas les principes opérationnels, les implications seront assez intéressantes si nous continuons comme maintenant, si l'on change pas cette situation. C'est-à-dire qu'il faudra voter et nous allons donc mettre en place le même processus. Si nous voulons que les vice-présidents actuels restent en place, cela doit être fait par votation. Je voulais faire cette remarque. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Tracy, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire des commentaires? La Suède, s'il vous plaît. La Suède prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait conscient que c'est un sujet très important. Et vu qu'il y a beaucoup de chaises vides dans la salle, il peut y avoir des confusions par rapport au fait de savoir s'il y a une pause café ou non maintenant. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une confusion et que certaines personnes pensent qu'il y a une pause café et ils ne sont pas là. Thomas Schneider prend la parole. Oui, je comprends bien, mais nous devons commencer cette discussion avec ceux qui sont dans la salle, au moins. La question clé est la suivante. Voulez-vous que l'on puisse réélire officiellement 5 vice-présidents à Dublin? Oui ou non? Si c'est oui, alors il faut prendre des mesures, à savoir réviser les principes opérationnels concernant les élections. Les procédures donc doivent être révisées pour que l'on puisse utiliser cette version révisée à Dublin, oui ou non? Ou bien préférez-vous que l'on mette en place un processus plus long de révision? Merci, c'est la question. Je vois la Commission européenne qui souhaite prendre la parole. Commission européenne prend la parole. Merci beaucoup. En ce qui concerne les 5 vice-présidents, la révision des principes opérationnels pour clarifier cela, nous pensons que c'est un changement très opportun et très utile qui nous permet de refléter une plus grande diversité régionale en ligne avec les principes opérationnels qui établissent que la diversité géographique des membres du GAC doit être encouragée. Ce serait très utile donc. Et nous pensons que 5 vice-présidents, c'est très approprié et raisonnable. Vous êtes en train de fonctionner avec 5 vice-présidents maintenant. Je pense que c'est très utile et que ce serait intéressant de le refléter dans les principes opérationnels. D'autre part, je pense que le changement à minima devrait être la révision du processus de votation. Je pense que on devrait au moins avoir révisé cela avant de passer aux élections à Dublin. Je pense que ces deux aspects, nous pensons que ces deux aspects devraient être amendés et révisés maintenant. Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup, Commission européenne, de cette déclaration très claire. Autriche prend la parole. On soutient la Commission européenne, mais je voudrais dire que si nous voulons avoir un équilibre géographique, il serait plus facile si les vice-présidents sont 5. Mais je voudrais définir d'abord ce que c'est que la diversité géographique, parce que autrement, il peut être difficile de établir quels sont les vice-présidents de quelle région. Je pense que c'est une condition préalable pour faire ce travail, définir ce que c'est que la diversité régionale, quelles sont les régions. Et puis la deuxième tâche consisterait à voir comment nous pouvons garantir ou assurer cette diversité. Mais je ne pense pas que ce soit approprié d'avoir un panier de candidats et que l'on en choisisse un. Ce travail est assez large. Je sais qu'on est un groupe nombreux, mais il faut pouvoir aborder ces deux questions. Comment définir les régions et comment assurer que le processus d'élection est équilibré du point de vue de la diversité régionale. Thomas Schneider prend la parole. Merci l'Autriche et merci d'avoir fait référence à cette question des régions. Le problème, c'est que nous avons déjà commencé à discuter. Si vous voulez avoir une solution noir et blanc, contraignante par rapport à l'appartenance à des régions, cela pose certaines difficultés parce que les régions de l'ICANN n'ont pas le même nombre de membres et donc il nous faudrait chercher une autre définition de région et d'autres alternatives, par exemple Nations Unies, les régions de l'UIT, mais pour cela il faudrait avoir des discussions plus approfondies qui, à la longue, pourrait nous amener à diviser le GAC, non pas l'ICANN, mais le GAC en régions plus définies. Mais nous n'en sommes pas là encore et cela prendra du temps. La question est de savoir si on veut arriver à une solution où la direction du GAC soit considérée comme étant équilibrée du point de vue de la diversité. Pour le moment, la décision d'élargir le nombre de vice-présidents, je pense que pour cela, il n'est pas obligatoire de devoir réviser cela. Je vois le Danemark et les États-Unis. Pardon, l'Allemagne et les États-Unis. L'Allemagne prend la parole. Oui, tout d'abord, je suis d'accord avec ce qui a été dit par mes prédécesseurs, par les gens qui m'ont précédé, en ce sens que le changement des élections doit être reflété dans les principes opérationnels, car cela est important avant de tenir les prochaines élections. En ce qui concerne la diversité géographique, je suis tout à fait d'accord avec l'explication que vous avez donnée, à savoir que nous ne devrions pas être très attachés à une définition concrète. Et je voulais dire qu'au sein du GAC, les vice-présidents élus pour une région ne sont pas forcément des représentants de cette région. Nous avons des gouvernements qui parlent en leur propre nom. Et non par le biais des représentants régionaux. Merci, Thomas Schneider. Le Danemark prend la parole. Je voudrais répéter ce qui a été déjà dit de notre côté. Nous voyons qu'il est nécessaire de mettre en place ces changements dans les principes opérationnels afin que l'on puisse disposer de procédures pour pouvoir élire les vice-présidents dans l'avenir. Donc, il faudrait changer les principes opérationnels. C'est ce que nous voudrions. Nous aimerions soulever d'autres questions, à savoir qu'il faut s'assurer que la représentation géographique, si nous avons nous divisé en différentes régions, cela n'est pas tout à fait possible de notre point de vue. On ne pourrait pas résoudre cela maintenant. Cela devrait être résolu dans l'avenir. Thomas Schneider prend la parole. J'ai les États-Unis. États-Unis prend la parole. Merci beaucoup. Merci aux orateurs qui m'ont précédé. Je pense que d'après ce qu'on a entendu, tout cela renforce ce que j'ai dit samedi. L'une des préoccupations que l'on a, c'est qu'on est en train de réviser donc les principes opérationnels de manière très fragmentée. Et cela ouvre la porte à d'autres questions qui vont impliquer la révision d'autres parties des principes opérationnels. Les principes opérationnels, dans leur ensemble, ne sont pas tout à fait clairs. Et je pense qu'il faut réviser l'ensemble des principes opérationnels au lieu d'adopter cette approche où l'on voit un document avec des propositions ici et là, des ajouts ici et là, mais qui ne couvre pas tous les changements qui pourraient être appliqués. Il y a des discussions difficiles qui doivent être prises. La question de la diversité régionale est un objectif que les États-Unis soutiennent. On est 140 pays et il faudrait que toutes les régions puissent être représentées. Or, nous savons que nous ne sommes pas structurés en termes de régions. Vous et ou Christian ont dit que l'opération en termes de régions n'a pas trop de sens. Parce que il y a des divisions régionales et cela ne fonctionnerait pas très bien pour les États-Unis parce que notre région, il n'y a que Canada et les États-Unis. Et ce que je veux dire, c'est que cette approche par fragmentée ou par petite partie va poser plus de problèmes qu'en résoudre. C'est pour cela que je ne suis pas très favorable à l'adoption d'une approche aussi fragmentée. Je comprends le besoin d'avoir des élections à la fin de l'année. Maintenant, les principes opérationnels établissent trois vice-présidents. Et nous avons essayé d'utiliser les dispositions pour essayer qu'il y ait une représentation régionale. Mais je ne sais pas très bien Sur quelle partie des principes opérationnels vous voulez qu'on se mette d'accord pour modifier, et je vous encourage à réfléchir aux conséquences qu'il pourrait y avoir de cette modification de certaines parties des principes opérationnels. Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup. Certains membres ont exprimé leur préférence de modifier les principes opérationnels qui portent sur l'élection des membres et du nombre de vice-présidents. Je comprends vos doutes par rapport au fait de mettre en place cette discussion maintenant et que vous préféreriez de le faire plus tard. Et j'en prends note. L'Égypte. L'Égypte prend la parole. Je suis plutôt d'accord avec une approche globale. Ma question est la suivante. Si nous ne révisons pas la partie concernant les élections, nous serons bloqués avec 3 présidents la prochaine fois, parce que les principes prévoient cette extension à 5 vice-présidents. Et au pire des cas, nous pourrions appliquer le même principe que nous avons appliqué cette fois-ci. Je voulais juste une précision par rapport à cela. Thomas Schneider prend la parole. Je vais donner la parole à Michel. Mais d'abord, le problème, c'est que nous avons nommé ces vice-présidents vice-présidents, mais formellement, ce sont des fonctionnaires spéciaux ou fonctionnaires supplémentaires. Nous nous sommes mis d'accord à Los Angeles que nous allions les appeler des vice-présidents, sachant que nous allions introduire cette modification aux principes opérationnels. S'il n'y a pas de désaccord pour faire cela, j'aimerais demander à Michel ce que cela aurait comme conséquence au niveau des élections, si l'on continue à les appeler fonctionnaires spéciaux par rapport au fait de les appeler vice-présidents. Est-ce qu'il faudrait mettre en place d'autres processus? Je ne vois pas très bien ou très clairement comment nous pourrions continuer à avoir 5 personnes de manière plus ou moins durable. Mais bien sûr, c'est au GAC d'en décider. Michel, peut-être vous pouvez nous aider pour nous dire comment cela pourrait être fait.
Michel Scott Tucker prend la parole. Du secrétariat ACIG, du GAC. La question est la suivante. Il faudrait que les nominations se fassent pendant la réunion de Buenos Aires. Elles doivent être faites 60 jours avant la réunion de Dublin. Je crois que ce serait à un moment donné du mois d'août. Si nous ne recevons que 5 nominations correspondant aux 5 personnes ou aux 5 postes existants en ce moment, nous pouvons les redésigner pas à l'unanimité. Nous ne sommes pas obligés de faire un processus de vote. Si nous avons plus de 5 nominations, nous en avons 6 ou plus, nous serons obligés de faire appel à un processus d'élection. Je pense que nous devrions résoudre le problème si nous n'avons pas changé les principes opérationnels en disant que nous allons voter 3 vice-présidents et 2 fonctionnaires spéciaux ou quel que soit le nom. Ces 2 fonctionnaires supplémentaires, nous pouvons le faire de la même façon dont nous l'avons fait la dernière fois. Les personnes qui reçoivent le plus de votes seront nommées des vice-présidents et les 2 qui suivent dans la liste seraient nommées comme des fonctionnaires spéciaux. C'est ce que nous pourrions faire avec les principes opérationnels actuels. Thomas Schneider prend la parole. Que faisons-nous? Nous avons 7 minutes. Je sais que nous pouvons continuer. Ce n'est pas quelque chose qui doivent être intégrés dans le communiqué. Alors, nous pouvons continuer le débat demain. Michel Scott Tucker prend la parole. Bon, comme je l'ai dit, nous pourrions le résoudre sans changer le nombre de vice-présidents en ce moment. Si nous ne changeons pas les principes opérationnels pour proposer ou pour permettre un vote en ligne, nous allons utiliser le même principe appliqué dans la réunion de Los Angeles. Ce que je veux dire, c'est que nous savons que le processus de Los Angeles n'a pas été parfait, loin de là. J'ai eu une réunion avec le personnel de l'ICANN et j'en aurai une autre aujourd'hui pour en parler sur la manière d'utiliser un outil de vote en ligne. Moi, ce que je préférerais, c'est que si le changement est fait, que cette modification nous permette d'utiliser un système de vote sûr en ligne ou tout autre système. Mais c'est le GAC qui doit décider du système à utiliser, parce qu'en ce moment, les principes opérationnels spécifiques sont dans un processus particulier. Le président Schneider prend la parole, la Commission européenne, la Suisse, l'Autriche et la Ligue des pays arabes qui demandent de la parole. La Commission européenne prend la parole. Michel a dit très clairement ce qui arrive avec les principes opérationnels. Je pense que nous devons moderniser notre système. Je comprends clairement ce que signifie une approche holistique, mais la question est que nous avons oublié ce qui a été mis dans les procès-verbaux de la réunion de Los Angeles. Je crois que le GAC, si quelqu'un jette un coup d'œil à ces procès-verbaux, pourra voir que ce serait assez bête de parvenir à Dublin en disant que nous voulions pas modifier cet aspect spécifique, en particulier les processus électoraux, et utiliser à Dublin la procédure, la vieille procédure. Ce serait un peu bête. Voilà ce que j'en pense. Voilà ce que l'on avait dit dans le procès-verbaux de Los Angeles. Cette approche holistique serait vraiment intéressante et ce serait une bonne approche. Personne ne suggère, ou en tout cas on ne suggère pas des modifications fondamentales, mais il faudrait changer le processus, la procédure pour les élections et ajuster cela. Le président Schneider prend la parole. Merci, nous avons 3 minutes. Donc, la Suède, l'Autriche et la Ligue arabe. La Suède prend la parole. Merci. Je dois que nous devons faire deux choses. D'une part, il faut délibérer pour pouvoir faire des changements sur ce qui peut être facile ou pas. La question de la représentation géographique peut donner lieu à un long débat ou pas. Mais je pense que nous pourrions le faire très rapidement cette fois-ci. Et nous aurions fini à Dublin comme nous avions décidé de le faire à Los Angeles. Quant à la révision holistique des principes opérationnels, prendrait beaucoup plus longtemps. Il semblerait que nous avons commencé en 2012. Le travail que nous avions nous a fait prendre du retard et cela prend beaucoup plus longtemps qu'on n'avance pas. Il faudrait donc reprendre le travail. Si nous faisons des modifications maintenant pour avoir 5 vice-présidents et ensuite nous voyons qu'il y a un problème, nous pouvons encore modifier cela une fois que cette révision générale holistique doit être faite, s'il est vrai qu'on a besoin de ce travail de révision. Thomas Schneider prend la parole. Merci la Suède. Maintenant l'Autriche prend la parole. Bien, je donne tout mon soutien à ce que la Suède vient de dire. Si l'amendement ne donne pas de bons résultats, nous allons le modifier encore. Cela arrive au quotidien dans tous les parlements du monde, alors que les législateurs doivent évaluer ce qui a donné les bons résultats et ce qui n'en a pas donné. Alors, Michel, sur votre proposition, je ne suis pas très sûre si nous pouvons élire ces 3 vice-présidents qui ont des facultés très claires et qui sont clés. Et le reste, ce serait des fonctionnaires. Ce serait bien de les appeler, mais ils n'auraient pas des attributions spécifiques. Ils ne pourraient pas jouer le même rôle que le reste parce que cela n'est pas prévu dans les principes opérationnels. Alors, quoi que nous fassions, si nous voulons 5 vice-présidents et que l'on a pris la décision à cet égard, il faut que nous modifions les principes opérationnels de façon pertinente. Autrement, le travail à faire ne sera pas clair pour ces fonctionnaires. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Donc, on va, en prendre bonne note parce que l'orateur précédent est apparu comme Australie dans la transcription et c'est l'Autriche. Maintenant, la Ligue des pays arabes prend la parole. Moi, dans ma position de membre observateur, je veux dire que dans le GAC, nous représentons 22 pays, dont 11 seulement sont membres du GAC. Nous avons 7 ou 8 peut-être qui sont des membres qui peuvent assister aux réunions. Alors, nous avons demandé et nous avons approuvé une phase d'évaluation, une étape d'évaluation pour point arabe et nous allons travailler avec ces nouveaux GTL pour les 22 pays membres. Je crois que nous devrions participer aux sujets où les GAC participent, tels que la responsabilité, les nouveaux GTL et d'autres. Et en l'absence de critères clairs régissant le type d'adhésion au GAC, je pense que nous devrions tout au moins avoir une participation avec le droit de vote tel que le font l'Union européenne et l'Union africaine. Merci beaucoup. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Je prendrai note de tout ce que vous venez de dire. J'ai cédé la parole à l'Allemagne. Je demande d'être bref. L'Allemagne prend la parole. Je voudrais me faire l'écho de ce que mes collègues viennent de dire. Je crois qu'il faut préciser les principes opérationnels quant aux élections. Je crois qu'il y a des explications, quelques explications dans le texte actuel qui peut déboucher sur une situation où l'on ne pourra peut-être pas faire la délégation des fonctions pour une certaine fonction. Donc, je voudrais savoir ce qui se passerait si l'un des délégués, par exemple, tombait malade. Si nous prenons le processus des élections comme un processus sérieux, et moi, j'estime qu'il s'agit d'un processus sérieux, hein, et qu'il se peut qu'il y ait des questions empêchant de continuer de l'avant ou s'il y a une prohibition pour qu'une délégation ne puisse pas assister ou voter. Hein. Alors, Thomas Schneider prend la parole. Bien, je crois que nous sommes tous sur la même ligne quant à au besoin d'une révision générale des principes opérationnels. Mais il y a beaucoup de membres qui croient vraiment qu'il y a un thème ou deux thèmes qui doivent trouver une solution maintenant. Nous n'allons pas prendre la décision maintenant parce que nous avons davantage de temps demain dans notre ordre du jour. Je finis la séance maintenant et je cède la parole au groupe de travail du GAC dirigé par l'Argentine sur la protection des noms géographiques. Bien sûr, il s'agit d'un thème très important. Je cède la parole à l'Argentine. L'Argentine prend la parole. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir assisté avec nous à cette séance qui dure une heure. Je vais inviter les orateurs de notre séance. Je demande à nos collègues de nous faire de la place pour que les autres orateurs puissent nous rejoindre. Merci. Merci d'avoir présenté mon travail sur l'écran. Il me semble qu'il nous manque quelqu'un de la LAC. Rafik, es-tu dans la salle? Bon, il se peut qu'il vienne plus tard. Une fois de plus, donc, merci d'être ici parmi nous ce matin. Il s'agit de la suite du travail que nous avons commencé à Buenos Aires il y a un an et demi à peu près. Parce qu'il y a un mandat faisant que le GAC doit réviser certaines normes pour la prochaine série de nouveaux GTL pour éviter des conflits avec certains termes liés à des noms géographiques et d'autres questions concernant des questions communautaires. Alors, merci beaucoup. Voudriez-vous mettre la prochaine image, Julia? Voilà l'ordre du jour. Malheureusement, nous ne disposons que d'une heure. Nous avons tous beaucoup de choses à faire qui se passent en même temps pendant cette réunion. Alors, cette réunion a été faite. Nous voulions que ça se fasse lundi pour ne pas la faire dans la salle du GAC. Nous avons fait tout ce qui était à notre portée. Alors, nous vous remercions d'avoir voulu assister à la réunion dans notre salle. Je ferai une présentation très brève de ce dont nous allons parler aujourd'hui à propos des commentaires reçus. Et je vais inviter les membres du panel pour la séance, c'est-à-dire les représentants de la LAC, de la CCNSO, le Conseil de l'Internet de l'Afrique, le groupe des registres des marques et la, GNSO. Il y a beaucoup de commentaires et malheureusement, nous ne pouvons pas inviter toutes les personnes présentes pour s'exprimer sur ces commentaires, mais après la présentation des membres du panel et de ma propre présentation, qui seront des présentations brèves, nous allons écouter vos commentaires. Et je vais ensuite vous donner un aperçu sur les pas à suivre. Je vais faire ma présentation en espagnol sur le document préparatoire, les commentaires et certaines choses qui sont arrivées après les commentaires. Et puis je vais reprendre l'anglais pour avoir le dialogue avec vous. Avant de passer à l'espagnol, je voudrais bien que vous remerciez les interprètes du travail qu'ils font et merci de nous accompagner tout le temps. Je vais faire de mon mieux pour parler lentement. On m'a demandé de le faire autrement. Faites quelque chose, faites-moi signe dans les cabines.
Merci beaucoup d'être avec nous. Comme je vous ai dit, le communiqué de Durban de GAC dit à un certain moment que nous avons travaillé conjointement avec l'ICANN pour peaufiner les règles concernant les séries futures de GTLD pour éviter les mêmes conflits que nous avons pu rencontrer avec les non-géographiques. Le mandat, en réalité, est un peu plus large, mais dans cette séance, nous allons nous consacrer aux non-géographiques. Pourquoi ? Pour essayer de calmer un petit peu les attentes ou les incertitudes de toutes les parties. Le processus a été difficile non seulement pour les candidats, mais aussi pour les gouvernements. Et il a été difficile également pour les communautés. Ça n'a pas été un processus qui a satisfait tout le monde. Et c'est pourquoi l'idée, c'est d'éviter que cela se reproduise dans des séries futures, éviter l'utilisation non souhaitable de certains noms qui sont liés à des communautés, des régions ou des pays. C'est-à-dire réduire le nombre de conflits pour les nouvelles séries de nouveaux GTLD. Et en plus, et cela c'est très important, disposer de documentation de référence, documentation aussi bien pour les pays que pour les candidats et pour les CAN. Un matériel donc qui puisse être utile pour élaborer les règles pour les nouvelles séries de GTLD. Diapo suivante. Le document qui a fait l'objet de consultations publiques a été préparé par le groupe de travail. Il a fait l'objet de plusieurs révisions. Ce document a évolué au fil du temps parce qu'on y a ajouté les commentaires que nous avons reçus et des changements liés à certains processus qui ont eu lieu. Par exemple, les commentaires que l'on a reçus par rapport à Point Amazon. Le document inclut des actions au niveau national et international pour la protection de certains noms. Le document suggère certains textes que l'on pourrait ajouter au nouveau guide de candidature, si l'on appelle ce guide comme ça. Et le document inclut également un guide de meilleures pratiques et des étapes à suivre dans l'avenir. Diapo suivante. Vous voyez là tous les commentaires que nous avons reçus. Plus de 25 commentaires très intéressants. La présentation telle que vous la voyez avec les liens est disponible en ligne. Vous trouverez en ligne également un résumé de tous ces commentaires. Et pour cela, je tiens à remercier tout spécialement Michel. Michel, où es-tu? Michel, je voulais te remercier. Michel a fait un travail extraordinaire car elle nous a aidé à préparer ce document qui est en ligne. Julia, est-ce que on pourrait montrer ce résumé pour que les gens puissent voir de quoi l'on parle? Nous avons un résumé donc de tous les commentaires. Le résumé préparé par Michel a été ensuite révisé par le groupe de travail. Le document de référence a été traduit dans toutes les langues gérées par notre équipe de traduction, si bien qu'il est disponible pour d'autres communautés. Voici le résumé qui est disponible pour que vous puissiez le consulter. Diapo suivante, s'il vous plaît. « L'idée, c'est de passer en revue certains commentaires que nous avons reçus. On pourrait regrouper les commentaires en trois catégories. Certains commentaires font des propositions concrètes pour améliorer le processus, pour ajouter davantage d'informations, des propositions concrètes à mettre en place. Certains autres commentaires manifestent leur désaccord par rapport à ce document ou à certaines parties de ce document, mais ils proposent des idées pour poursuivre le dialogue. Je ne sais pas comment traduire en anglais « engage ». Et il y a des gens, des commentaires qui ne sont pas d'accord avec le document. Quelles sont les raisons avancées par les commentaires qui se manifestent contre le document? Donc, ces raisons sont les suivantes. Le document représente une charge administrative aussi bien pour les pays que par l'ICANN et pour les candidats. Un autre argument, c'est que les noms géographiques doivent être mieux définis au niveau du document, que le concept d'intérêt public doit être mieux défini sur le document. Un autre argument, c'est que le gouvernement n'a pas l'usage exclusif des noms géographiques dans aucun contexte. Un autre commentaire, c'est que le document ne inclut pas certaines lois internationales et qu'il n'interprète pas correctement la loi. Un autre argument, c'est que l'ICANN n'est pas l'endroit approprié pour appliquer des règles sur la propriété intellectuelle, que les gouvernements n'ont pas de droit sur les noms géographiques, que les changements devraient être mis en place par le biais d'un PDP au sein de la Geneso et que les solutions proposées des solutions proposées alors qu'il n'y a pas eu de problème. Voilà les arguments avancés par ceux qui sont contre le document. Maintenant, je vais faire des commentaires à titre général. Nous ne savons pas si l'ICANN est l'endroit idéal pour aborder ce type de sujet ou pas, mais bien c'est là où a eu lieu la série de nouveaux GTLD et c'est là où les gouvernements ont eu la possibilité de participer de manière précoce. Je ne sais pas s'il y a un autre espace où l'on puisse faire cela. Il y a eu des problèmes, certes, aussi bien au niveau des candidats que des communautés et que des gouvernements. Mais si l'on ne change pas les règles, nous allons être confrontés aux mêmes problèmes dans l'avenir. Grâce aux commentaires que nous avons reçus, nous allons préparer une nouvelle version de ce document de contexte et nous allons distribuer cette nouvelle version à la réunion de Buenos Aires. Je vais maintenant passer à l'anglais. Julia, s'il vous plaît, si vous pouvez montrer la diapo suivante, vous trouvez ici tous les liens où vous pouvez trouver la dernière version du document ainsi que les versions traduites de ce document. Sur le site du GAC, vous trouverez également toutes les informations que vous voyez sur l'écran. Maintenant, je vais donner la parole à nos panélistes. Nous avons Lalak dans la salle. Lalak est représentée à Lalak. Alors, Annabeth, est-ce que vous pourriez nous parler des commentaires faits par la CCNSO? Je suis Annabeth Lang. J'appartiens... Donc, je suis coprésidente du groupe de travail sur le nom des pays et de territoires. Ce groupe de travail suit des recommandations du groupe de travail d'études de la CCNSO sur ce sujet qui a identifié des problèmes par rapport à l'utilisation des différentes de noms de pays et de territoires qui sont considérés sur la liste de la norme ISO 31-66-1-2. Notamment, le groupe s'est focalisé sur la question des politiques possibles pour choisir des noms de domaine de premier niveau qui puissent avoir un nom de pays ou de territoire utilisé en tant que CCTLD, IDEN, CCTLD ou nouveau GTLD. Autrement dit, il nous faut voir quelles sont les procédures ou les politiques qui devraient être appliquées pour utiliser le nom d'un territoire ou d'un pays comme TLD. Conformément au cadre juridique applicable, conformément à la relation entre les parties concernées, y compris les utilisateurs finaux, et dans le cadre des rôles et des responsabilités de chacune des parties. Il s'agit d'essayer d'analyser aussi les étapes qui vont suivre. Notre groupe a essayé d'élaborer un cadre de développement pour l'utilisation des noms de pays et de territoires comme de noms de domaines de premier niveau. Une fois que ce cadre sera mis en œuvre, il pourrait améliorer la prévisibilité et minimiser les confusions des parties intéressées concernées par rapport à l'utilisation de ces noms. Ce groupe de travail intercommunautaire a des membres du GAC, de la GNSO, la CCNSO et la LAC. La mission de ce groupe de travail est très restreinte. Tout d'abord, le groupe se consacre à des catégories de noms, de pays et de territoires et leurs sous-divisions telles qu'elles figurent sur la liste de la norme ISO 3166. Le groupe ne se focalise pas sur les noms de régions, de provinces, de pays ou d'autres types de noms géographiques. Deuxièmement, nous sommes focalisés sur le nom de domaine de premier niveau. Or, les noms de domaine au second niveau, comme par exemple nld.org ou .info, sont en dehors de la portée de notre travail. Le conseil de la CCNSO considère qu'il y a certains chevauchements entre le travail de ce groupe et le groupe de travail du GAC sur les noms géographiques. Comme j'ai dit, le mandat ou la mission de ce groupe de travail intercommunautaire est limité à la liste des pays figurant sur la norme ISO 3166-1 et non pas aux autres noms géographiques et seulement sur les noms géographiques TLD au premier niveau. Donc, puisque le groupe de travail du GAC travaille sur le nom de territoire de pays, nous croyons qu'il y a un certain chevauchement qui pourrait être invité, qui devrait être invité, afin que l'on ne traite pas des mêmes questions, car on pourrait arriver à des solutions différentes par rapport au même problème. Le groupe de travail intercommunautaire a abordé le conflit possible avec différents membres de la communauté dans une réunion du groupe de travail que l'on a eue hier. Le groupe est conscient que le GAC a un point de vue ferme par rapport à cette question. Or, pour pouvoir utiliser de manière plus efficace notre temps, nous croyons qu'il serait avantageux d'obtenir certaines précisions. Nous voudrions que le GAC reporte son travail sur les noms et le territoire qui sont sur la liste ISO 3166 et qui participe, dans la mesure du possible, au travail que fait le groupe de travail intercommunautaire jusqu'à ce que ce groupe finisse sa tâche. Et que, ensuite, le GAC se concentre sur l'utilisation d'autres noms géographiques. Si nécessaire, le GAC pourrait revenir sur les noms de domaines de premier niveau dont nous nous occupons s'il n'est pas satisfait avec notre travail. En tout cas, nous allons informer le GAC sur le processus de notre travail. L'Argentine prend la parole. Merci beaucoup, Annabeth. Je voudrais faire un commentaire par rapport au CCNSO pour que vous me disiez quel est votre point de vue. Les CAN et les gouvernements souhaitent encourager les gouvernements locaux pour arriver à un accord en amont. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à cela? Annabeth prend la parole. C'est correct. Ce que nous avons dit dans notre lettre est la chose suivante. Ni les gouvernements, ni personne d'autre du point de vue juridique ne possède ce droit. Or, cela ne veut pas dire que l'on ne puisse pas arriver à un accord avec toute la communauté, analyser le problème et voir comment on peut appliquer les choses pour éviter toute confusion. En ce sens, il serait avantageux de pouvoir débattre de ces questions le plus en amont possible pour arriver à un accord, même si on n'a pas un droit juridique. L'Argentine prend la parole. Merci, Annabeth. Votre commentaire est tout à fait pertinent. Merci de nous avoir envoyé tous ces commentaires. Rafid, je suis ravie de vous avoir ici. Nous voyons que les représentants de la LAC est là. Rafid, voulez-vous prendre la parole? Merci beaucoup d'être ici. Rafid prend la parole. Je ne vais pas trop ajouter à ce qui a été déjà dit. Nous voulons dire que les noms géographiques devraient être protégés dans la nouvelle série de candidatures au GTLD. C'est ce que considère le GAC. En novembre, nous avons soutenu la déclaration du GAC et nous avons demandé des amendements aux clauses 2.1.4. Nous avons également, clause 2.1.2.4 concernant les noms géographiques sur le guide de candidature. Nous avons également demandé à ce que les traités internationaux tiennent compte des droits des pays par rapport aux noms géographiques dans l'espace de nom. Nous cherchons à ce que les choses soient plus claires, car nous croyons qu'il doit y avoir un système de contrôle, de poids et de contrepoids, qui soit mise en œuvre. Ce n'a pas été le cas pour la première série. Nous croyons qu'il faut obtenir davantage d'informations de retour par rapport à la performance de cette première série. Cela est très important. Il est important que la protection de l'utilisateur final soit assurée. Et en aucun cas, nous sommes contre l'autorisation de la délégation des chaînes de caractères liées à des noms géographiques. Mais nous voulons être prudents, être plus clairs dans cette question. L'Argentine prend la parole. Merci, Rafid. Je voyais un petit peu les commentaires que vous avez faits et vous avez dit quelque chose de très pertinent par rapport à la collecte de données, peut-être. Pourrions-nous travailler en collaboration avec l'ICANN et la LAC pour obtenir cette information de référence? L'Argentine reprend la parole. Merci beaucoup de cette contribution. Je pense que nous allons essayer d'être brefs pour pouvoir disposer d'un peu de temps pour écouter les membres du public. Lara, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Le groupe de registre de marque commerciale n'a pas été d'accord avec le document, mais il a présenté des idées très intéressantes vu le contexte des chaînes de caractères demandées et au vu des problèmes que l'on avait rencontrés. Ce groupe souhaite avoir un dialogue plus approfondi en ce sens. Donc, Lara, merci beaucoup d'être là. Lara travaille avec Philippe dans le groupe de travail des registres de marques. Lara prend la parole. Merci beaucoup. Je vais parler aujourd'hui en tant que présidente du groupe de marques au sein de l'ICANN, de groupe de registre de marques commerciales au sein de l'ICANN. Nous voulons protéger les noms géographiques. Pardon, nous sommes contre ces demandes. Tout d'abord, je tiens à dire que beaucoup de nombres géographiques, de noms géographiques, possèdent des significations spécifiques. Il peut s'agir de marques commerciales, des noms géographiques, en plus des noms géographiques. Cette proposition suggère que ces noms auront toujours une utilisation liée à une signification géographique. Je m'excuse, je sais que je parle trop vite. Je devrais recommencer peut-être. Je suis désolée, pardon. Alors, la proposition telle qu'elle a été présentée suppose que la signification principale de ce type de nom est toujours liée à des références géographiques. Or, en ce qui concerne un nom de domaine, la signification principale pour les utilisateurs peut être une marque commerciale. Ce qui nous concerne, c'est qu'au lieu de minimiser la confusion, la proposition fait toujours référence au nom géographique et cela peut porter à confusion et porte préjudice aussi à la protection des consommateurs qui est inhérent à la liberté d'expression et la protection des consommateurs. Deuxièmement, le droit international ne accorde pas au gouvernement un droit exclusif des noms géographiques. L'ICANN n'est pas le forum approprié pour modifier les lois applicables. Il y a des traités qui, de longue date, sont en vigueur et qui reconnaissent que les parties privées ont, dans certains cas, des droits acquis sur les noms géographiques. Dans 92% des commentaires présentés sont contre la proposition. La plupart de ces commentaires viennent d'organisations qui représentent un grand nombre de membres. Il y a des organisations avec des milliers de membres dans le monde entier. Le BRG a donné du matériel au GAC, au président du GAC et au secrétariat, et je vous encourage à lire ce matériel. Finalement, cette proposition crée des incertitudes et des problèmes pour les gouvernements et pour les prochains candidats. Cette nouvelle proposition est assez ouverte au niveau de la mise en œuvre et pour toutes ces raisons, le manque de fondement juridique, la position de la communauté et l'incertitude, nous sommes contre cette proposition. Nous remercions de l'opportunité qu'on nous a accordée de participer à ce dialogue et nous allons continuer à travailler avec vous. L'Argentine prend la parole. Merci, Lara. Merci de votre sincérité. Je voudrais dire que ces commentaires rejoignent d'autres commentaires que nous avons reçus et nous avons bien pris note du fait qu'il y a des arguments de nature juridique qui sont à la base de votre position. Nous vous remercions de cette intention manifestée de continuer un dialogue. Nous allons être en contact avec vous pour continuer à modifier notre document. Je vais maintenant passer à ma droite. J'ai un membre de la GNSO qui va prendre la parole. La représentante de la GNSO prend la parole. Merci beaucoup, Olga. Merci aux membres du GAC. Je suis Heather Forrest. Je suis ici avec Carlos Gutiérrez, qui m'accompagne. Carlos et moi-même sommes membres du conseil de la GNSO. Nous sommes ici pour vous donner le point de vue de la GNSO. L'article 10 des statuts de l'ICANN établit la mission de la GNSO, à savoir élaborer des politiques et les présenter au conseil d'administration en matière des noms génériques de premier niveau. Dans ce même article, on voit la structure de la GNSO, on établit la structure de la GNSO avec différentes unités constitutives et des parties intéressées. L'utilisation de noms géographiques en tant que nouveau GTLD rentre dans la portée du travail de la GNSO conformément au statut. Nous avons une unité constitutive de fournisseurs de services Internet, l'unité constitutive des parties prenantes commerciales et l'unité constitutive de la propriété intellectuelle qui se penche sur cette question. Il faut préciser qu'il y a différents intérêts au sein de la GNSO et que nous ne manifestons pas notre point de vue dans un seul document, comme c'est le cas de la CCNSO. Cette diversité d'avis est consacrée dans les statuts de l'ICANN et est au cœur de la création de politiques au sein de la GNSO. Ce que nous pouvons faire ici, vu le temps dont nous disposons, c'est mettre en relief les commentaires qui ont été présentés par la GNSO et vous faire une petite introduction par rapport à cela. Ensuite, mes collègues et les différentes unités constitutives et parties prenantes vont pouvoir répondre à vos questions spécifiques. Pour résumer, les commentaires de l'unité constitutive des parties prenantes commerciales soulèvent des inquiétudes par rapport au fait qu'il n'est pas très pratique de chercher une solution au cas où une chaîne de caractères concerne un type spécifique de nom géographique. On dit également que pour les utilisateurs commerciaux, cela pose une difficulté importante dans la mesure où il n'y a pas de clarté par rapport à l'application de ces nouveaux GTLD. Il y a aussi une incompatibilité du point de vue juridique et du manque de clarté par rapport au bien public ou l'intérêt public. Pour voir comment cette définition pourrait être appliquée afin d'arriver à un règlement de litige, le groupe voudrait savoir ce qui se passe ou si une chaîne ou comment on détermine si une chaîne de caractères est ou pas un nom géographique. Autrement, nous sommes confrontés au risque de ne pas avoir suffisamment de prévisibilité et cela amènerait au risque d'avoir un traitement qui ne soit pas équitable pour les parties. Dans les statuts de l'ICANN, il est recommandé qu'un processus d'élaboration de politique soit mis en place par rapport à cela. L'unité constitutive des fournisseurs de services Internet dit qu'il y a une définition trop large de ce que c'est que les noms géographiques, mais qu'il n'y a pas une définition claire de l'intérêt public. L'unité constitutive de propriété intellectuelle indique qu'il existe le besoin d'un consentement de la part des gouvernements et qu'il y a des explications présentées, mais qu'il n'y a pas un fondement juridique, et dit également qu'il y a une hypothèse qui n'est pas appropriée par rapport au fait que pour toutes les utilisations d'un nom géographique, cette utilisation est notamment géographique. Et cela va contre l'intérêt public. Un autre argument, c'est que la proposition est basée sur une hypothèse qui n'est pas correcte sur ce que c'est que les marques commerciales et que l'approche doit être plus limitée. Je vais donner la parole à mon collègue Carlos qui va vous ajouter davantage d'informations. Carlos Gutiérrez prend la parole. Je voulais vous dire que ce groupe de travail intercommunautaire a été créé avec un mandat pour un travail en collaboration entre la CCNSO et la GNSO. Nous avons proposé un document préliminaire pour aborder cette question de manière ponctuelle et nous nous focalisons sur la liste qui existe déjà. Nous essayons d'établir une procédure qui nous permette de résoudre ce type de problème dans l'avenir. Ce document préliminaire a été déjà publié. Vous êtes tous invités à donner votre avis par rapport à ce document. J'invite aux membres intéressés du CAC à y participer et non pas à attendre quelques mois pour intervenir une fois que ce mécanisme sera déjà mis en place. L'Argentine reprend la parole. Merci la GNSO pour ses commentaires. En ce qui concerne le groupe de travail intercommunautaire qui a été mentionné par Anna Beth et par la GNSO, nous aimerions dire que c'est un groupe interne du GAC qui fonctionne au sein du GAC . Je pense qu'il est important d'établir une différence. Le GAC fait partie du groupe de travail intercommunautaire, mais nous considérons que ce groupe se focalise sur les noms qui se trouvent sur la liste. Notre tâche consiste à voir comment nous pouvons diminuer l'incertitude pour les noms qui ne se trouvent pas sur les listes des pays, des régions ou des communautés qui considèrent que leur nom a une signification pour eux, au-delà de la protection, du droit de protection des marques commerciales. Je ne suis pas juriste et donc j'aimerais poser une question à nos collègues ici présents, à tous les membres du panel et aux membres du public aussi. Les normes auxquelles vous faites référence qui ne considèrent pas que les pays puissent avoir un droit sur les noms géographiques. Et tout le cadre juridique auquel vous faites référence, et je m'excuse parce que je parle une langue qui n'est pas ma langue maternelle, et je suis ingénieure, je ne suis pas juriste, donc j'ai un peu de mal, vous m'excuserez. Mais toutes ces lois, ces cadres juridiques, sont-ils applicables au GTLD ou bien sont-ils applicables à d'autres figures comme les marques commerciales, par exemple? Autrement dit, pour vous, c'est la même chose, un GTLD, qu'une marque commerciale? Pourquoi je vous pose cette question? Pensons par exemple à Patagonie, un nom qui fait référence à mon pays. Nous avons beaucoup de compagnies qui s'appellent Patagonie, qui vendent du vin, des restaurants, etc. Tous ces noms sont enregistrés conformément aux lois des marques commerciales de l'Argentine. Ils payent des impôts, ils utilisent ce nom, Patagonie. Mais il s'agit d'une catégorie séparée. Ils vendent des vêtements, du vin, de la confiture, des gâteaux sous le nom de Patagonie. Et il n'y a pas de conflit par rapport à cela. Comment fait-on pour inclure ce cadre juridique par rapport à un seul GTLD? Est-ce que c'est quelque chose de global? Que se passe-t-il avec d'autres marques qui sont légalement enregistrées dans mon pays?
Là, elle prend la parole. Je crois que ce qui est important, c'est d'établir deux points pour la réponse. Le premier, c'est la législation sur les marques commerciales et l'autre, la législation internationale sur les marques commerciales ainsi que les traités soutenant ces lois. J'ai expliqué qu'il y a beaucoup de pays qui sont des pays signataires. Alors, certainement, cela est applicable, mais il faut savoir s'il s'agit du monde virtuel ou du monde réel. Est-ce que cela est appliqué dans le contexte de ce que nous pouvons créer? Je le dis en tant qu'avocat spécialisé en matière de propriété intellectuelle. Dans beaucoup de ces cas, les points marques vont utiliser les services qui font partie d'une catégorie. Alors, il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas de conflit avec d'autres. De la manière dont le système a été établi, c'est le premier arrivé, premier servi. Il y a des enchères, il y a d'autres processus qui pourraient permettre à des compagnies d'avoir un droit ou des pays, si les pays estiment que c'est ce dont ils ont besoin. Je crois qu'il n'y a pas un grand conflit au point de vue des marques commerciales. Il se peut qu'il y ait d'autres problèmes, mais en dehors de ce que concerne point marque, disons. L'Argentine prend la parole. Nous avons un participant à distance. Excuse-moi, Eric. Est-ce que tu pourrais intervenir après? Parce que j'ai cédé la parole au participant distant. Et ensuite, bon, un autre ami européen, disons, et puis j'ai une autre participante distante, excusez-moi, je me suis trompée, moi, en fait. Gédéon, est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous pourriez nous dire, l'Argentine prend la parole, pourriez-vous nous dire qui tu représentes, qui tu es, et les commentaires concernant le document? Bon, voilà. Gideon Rupp prend la parole. Je m'appelle Gideon Rupp et je représente le Conseil du commerce de l'Internet de l'Afrique. Je suis l'un des membres fondateurs de ce conseil. Je travaille pour West Africa et je fais partie aussi du secrétariat. J'ai des images à vous montrer. En premier lieu, je voudrais dire que la question des noms géographiques n'a pas de définition claire. Donc l'idée est de créer une base de données à utiliser pour la prochaine série, pour que ceci soit clairement défini. Cela représenterait un avantage pour nous en tant que gouvernement, puisque nous pourrions avoir une opinion, nous pourrions faire une suggestion sur la gouvernance. Alors, nous pourrions mettre tout sur une base de données et alors les candidats pourraient consulter cette base de données. Quant à cette base de données géographique, ou GNDB, par le sigle anglais, il n'y a pas que les candidats, mais aussi les utilisateurs pourront vérifier les types de noms qui ont des registres différents. Nous aurons le nom du pays, sa situation géographique et la référence internationale approximative ou exacte. Cela inclura une liste où il y aura tous les détails. Les candidats pourront demander des noms qui ne seront pas présents sur cette base de noms géographiques mondiales. Voilà la définition de noms géographiques. Quelle est la définition que nous aurons pour les noms géographiques alors? Lorsque nous parlons de l'intérêt public, j'ai une question à poser aux membres du panel et au comité consultatif gouvernemental. Comment pouvons-nous garantir la protection de cet intérêt public lorsqu'il y a des désaccords entre l'ICANN et les gouvernements? Nous avons besoin d'augmenter le nombre des noms géographiques de domaines pour élargir l'espace des domaines. Qui va donc s'occuper de protéger l'intérêt public? Dans la prochaine image, maintenant, vous pourrez voir la question de la sensibilisation. C'est important. Je ne dis pas, surtout en Afrique, non. Il est très important, surtout pour ce qui est des nouveaux GTLD. Nous avons eu beaucoup de candidatures où l'on utilise des noms géographiques. Il faut que nous soyons sensibles, que nous soyons conscients de cela, parce que il y a beaucoup de monde qui ignore tout de ce thème. Et le gouvernement peut éviter voir certaines marques commerciales comme des noms géographiques. Il faut que nous tenions compte de la liste ISO 316612. Pour améliorer cet espace spécifique. Si cette base de données est créée, nous allons emprunter différentes voies, en particulier les entreprises pourront faire cela, et elles pourront se préparer pour l'avenir. Parfois, les lieux géographiques peuvent changer, les noms des lieux géographiques peuvent changer de temps en temps. Nous avons, quelles sont les étapes, quelles sont les situations auxquelles nous devrions faire face. Nous avons un résumé. Je ne vais pas vous présenter tout pour que vous puissiez reprendre votre séance questions-réponses. Bien, l'Argentine prend la parole. Gideon nous a envoyé une présentation PowerPoint très intéressante. Il ne peut pas trop parler parce que nous avons peu de temps. Mais nous allons télécharger en amont ces documents comme une documentation de la séance. Est-ce que vous pourriez partager avec nous une partie des commentaires des candidatures communautaires? Giacomo prend la parole. Bon, notre approche est un tout petit peu différente parce que nous avons voulu nous centrer sur les questions liées aux candidatures communautaires. Elles sont un peu différentes des candidatures géographiques parce que cela comprend les deux espaces, les deux domaines. 5% des candidatures pour les nouveaux GTLD basés sur les communautés. Mais il y a, en plus de ce qui est géographique, il y a d'autres points, comme par exemple point éco, point sport, point radio, qui ont été présentés par les unions des opérateurs radio, de radiodiffusion. C'est des candidatures communautaires. Et donc, elles ont traversé la procédure normale, à moins qu'il y ait eu un conflit de chaîne de caractères. Alors, pour ces cas-là, lorsqu'il ne s'agit pas de noms géographiques, et il y a eu tout de même des conflits, il y a eu en fait une seule candidature communautaire ayant eu des problèmes sur des noms géographiques. Il y a un processus spécial qui s'appelle un processus spécial pour ce type de conflit, CPE, évaluation prioritaire pour la communauté. C'est lorsque l'ICANN a fait appel à des évaluateurs externes. Le problème, c'est que les critères présentés dans le guide de candidature sont vraiment très restreints. Comme vous pouvez le voir, 75% de ces candidatures ont été rejetées. Donc, sur un total de 21 candidatures, il y en a eu 16 qui ont été rejetées. Et il n'y en a eu que 4 qui ont été acceptées. Même si elles ont été acceptées, elles ont été acceptées avec la notation la plus faible. Et même si ces 4 candidatures acceptées, approuvées et reconnues comme des candidatures communautaires, les candidats avec des noms génériques, les concurrents, utilisent toutes sortes de ressources, des possibilités que les procédures permettent d'utiliser pour reporter cela, comme c'est le cas pour Point Africa pour le moment, même pour les communautés, les quatre candidatures communautaires ont été reconnues. Alors, au bout d'un processus d'un an, nous en sommes toujours au même point. Il est évident que nous travaillons pour créer une nouvelle base pour la future série des GTLD. Il faut que nous nous tenions compte de tous ces points-là. Il faut l'évaluer de façon soigneuse parce qu'il y a eu très peu de candidats qui ont pu survivre à ce processus tellement contraignant. Et nous devons penser à la manière de le modifier. L'Argentine prend la parole. Merci beaucoup, Giacomo, de ce que tu viens de présenter. Pourquoi est-ce que cela est important? Et merci de ton email d'hier. On nous a demandé pourquoi l'Argentine n'avait pas déposé sa demande pour Patagonia dans cette question des candidatures communautaires. Et la première réponse que j'ai eue, c'est que nous avons d'autres priorités au niveau national. Il faut la protéger par une candidature communautaire. Est-ce que les pays doivent faire ça? Qu'est-ce se passe-t-il pour les candidatures communautaires qui ont été enfin reportées et des exemples de ce type? Alors, je vais revenir au groupe de travail et je vais voir si nous pouvons revoir une partie de toutes ces indications, de tout ce problème pour pouvoir aider les pays qui veulent protéger des noms géographiques. Il s'agirait peut-être de présenter une candidature communautaire. Giacomo, est-ce que tu pourrais participer à cela? Giacomo, on prend la parole. Oui, s'il n'y en a eu que trois de nous qui avons survécu à tout le processus, je crois que nous pouvons participer et contribuer dans le travail. C'était un grand groupe de candidatures communautaires comme par exemple Point Musique, Point Art qui ont été arrêtées. Comme nous parlons de l'intérêt public et nous parlons des communautés réelles qui existent dans le monde réel, il s'agit d'un point crucial pour que l'ICANN protège l'intérêt public parce que autrement l'ICANN ne remplit pas sa fonction. L'Argentine prend la parole. Merci Giacomo, j'espère que tu vas pouvoir travailler dans le groupe et nous aider. Eric, tu auras la parole et puis Suzanne et puis, bon, il y a beaucoup de monde, le Kaboul aussi. Alors, je vais noter, donc Eric d'abord, en premier lieu, Eric prend la parole, en premier lieu, je crois que ce n'est pas à la commission d'avoir la responsabilité de non géographique. Je crois que c'est une compétence qui revient aux États. Nous, nous protégeons dans la communauté les droits de propriété intellectuelle. Une fois dit ceci, il faut que je dise que j'ai compris pendant cette conversation que quelqu'un avait dit le premier arrivé, c'est le premier servi. Quelqu'un a dit cela. Il me semble que ce n'est pas une façon de résoudre la question. Parce qu'une compagnie textile des États-Unis pourrait demander, par exemple, présenter sa candidature pour Patagonia et alors elle l'obtient parce qu'elle est arrivée la première. Et c'est premier servi, premier arrivé, premier servi. Ça n'en va pas. Donc ce qui me semble, c'est que nous avons un travail à faire et ce travail consiste à réfléchir là-dessus. Nous avons besoin d'une bonne communication, nous devons avoir des délibérations de qualité et je crois que les différentes unités constitutives de l'ICANN peuvent intégrer cette question. Voilà ma réflexion, il me semble que c'est un point important. L'Argentine prend la parole, merci beaucoup Eric. Je crois que c'est moi qui ai dit premier arrivé, premier servi. En contexte, cela signifie que dans le guide de candidature, cela est présenté comme une procédure, non pas comme une priorité sur celui qui mérite ou pas ce nouveau GTLD. Voilà ce que j'ai voulu dire quand j'ai mentionné cette phrase. La Commission européenne prend la parole. Non. Ne me comprenez pas, de façon erronée. C'est quelque chose sur quoi il faut que nous réfléchissions. Je crois que c'est correct, c'est ce que dit le processus. Je ne fais pas de commentaires sur les processus. C'est l'un des thèmes sur lesquels nous devons réfléchir. l'Argentine prend la parole, c'est nous sommes dans l'espace approprié pour, disons, susciter le dialogue. Maintenant, les États-Unis prennent la parole. Merci, Olga. Je voulais remercier tous les membres du panel d'avoir pris le temps de venir ce matin et de nous mettre au courant de ce qui, enfin, se passe. Nous, en tant que GAC, nous devons prendre des décisions. Il y a des points procéduraux et des points concernant le fond. En ce qui concerne la forme, nous avons toujours conçu ce groupe de travail comme une expérimentation très intéressante, un essai très intéressant pour développer une proposition qui n'a pas été soutenue par le GAC. C'est un document de travail. J'ai entendu dire qu'il était ouvert aux commentaires publics. Nous ne l'avions jamais fait parce que nous n'avions pas de consensus. Je trouve que c'est très utile parce qu'avant de chercher le consensus, il faut que nous écoutions ce que la communauté a à nous dire. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires très constructifs qui nous ont beaucoup aidés. Et franchement, nous avons soutenu 95% de ce que les gens avaient exprimé comme des soucis par rapport à cette proposition. Mais d'un point de vue procédural, je tiendrai compte de ces commentaires, Annabeth, la CCNSO et les représentants de la CCNSO et de les collègues de la GNSO qui parlent de ce groupe intercommunautaire. Au point de vue de la procédure, le GAC doit décider s'il faut changer le contexte de notre débat qui a été un tout petit peu ambigu et si nous mettons cela dans le contexte d'un travail de groupe de travail intercommunautaire. Je sais qu'il y a des membres individuels du GAC qui participent à cela. Mais ce n'est pas la participation du GAC en tant que corps, en tant qu'entité. Ce que nous donnons aujourd'hui, ce que nous présentons aujourd'hui, c'est une base fondamentale pour continuer à aller de l'avant. Si je peux revenir au fond de la question, les États-Unis ne peuvent pas être d'accord sur cette proposition, nullement d'accord. Cela a été très utile, un excellent essai pour que nous considérions les points de vue de la communauté, mais pour continuer à avancer, il y a beaucoup de points de la proposition qui ne peuvent pas être acceptés. Il faut qu'il y ait des échanges d'idées, des idées, et il faut les présenter à ce groupe de travail intercommunautaire pour aider le GAC à réfléchir sur ce qu'il doit faire. Nous aurons besoin, à un moment donné, de définir ce que nous appelons l'intérêt public. Parce que nous utilisons beaucoup, très souvent, ce terme, mais il n'a pas été défini. Il faut que nous nous mettions d'accord là-dessus. Et il faut que, enfin, nous soyons conscients de tout cela, tenant compte des connaissances spécifiques de la GNSO, la CCNSO et peut-être d'autres points. Donc, je disais, tirer profit de cette expertise légale, de ces connaissances légales. Il faut être basé donc sur le droit national et sur le droit international. Il faut que nous pointions cela. Il faudrait que ce soit le cadre approprié. Et je ne vois pas apparaître cela dans la proposition. Nous en sommes à un point où... Enfin, nous nous trouvons à un tournant. Nous remercions vraiment, reconnaissons la CCNSO, la GNSO de leur travail et de leur participation à cette activité. Je crois que nous ne devons pas interrompre ou continuer ce processus de façon isolée. L'Argentine prend la parole. Merci beaucoup, Suzanne. Ceci a fait l'objet de l'accord du communiqué de GAC de Durban. Et c'est pour cela que nous avons fait tout cela. Et un autre commentaire que plusieurs collègues du groupe de travail intercommunautaire ont fait. Il me disait qu'il s'attendait à une participation plus large des membres du GAC. Alors, tu peux peut-être nous rejoindre là. Et maintenant, j'ai une liste très longue des gens qui demandent la parole. Je vais parler espagnol. L'intention de mon commentaire est de préciser, dans la mesure du possible, de suggérer des solutions constructives. Je comprends qu'il s'agit d'un thème où la subjectivité est évidente lors du débat. Mais il faut que nous mettions de côté cette subjectivité et il faut que nous soyons plus concrets dans notre travail. Par exemple, nous avons entendu dire de la représentante de Run Registry Group que, enfin, les questions qu'elle a soulevées ont le soutien de milliers de personnes dans une série d'organisations, d'entités. Et c'est sûr que c'est le cas, mais ce que je veux, c'est qu'elles comprennent que lorsque nous soulevons la question de la protection des noms géographiques, ce dont nous parlons, c'est de millions de personnes représentées dans des communautés. Alors, en ce sens-là, il faudrait laisser de côté ce type de parallélisme parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas du tout. Deuxièmement, il y a un autre point qui a été mentionné. On a dit que dans le domaine du droit international, il n'y a rien de concret attribuant à un État le droit de gérer ses noms géographiques. Il me semble que cette affirmation n'est pas exacte. Il y a une série d'organisations des Nations Unies où l'on débat constamment et où l'on voit des progrès qui se font lentement, mais des progrès qui existent, des progrès sur des questions de noms géographiques, d'indicateurs géographiques à des appellations d'origine. Le fait que certains pays ne reconnaissent pas la notion d'appellation d'origine, c'est une autre paire de manches. Mais ce débat existe bel et bien. D'autre part, au sein des Nations Unies, encore une fois, on a une division s'occupant des statistiques et qui élabore la liste des codes uniformes de pays ou de zones à usage statistique. Cette division qui appartient à la direction géographique des Nations Unies à un rapport statistique appelé M49 ou M49. La division statistique attribue un code numérique des 1 à 3 chiffres à chaque pays. Et ensuite, l'Organisation nationale de internationale de normalisation, l'ISO, a besoin d'un code alphabétique à 3 éléments. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la procédure, mais je vous demande, est-ce que vous pouvez continuer à affirmer que les pays n'ont pas le droit de gérer tout ce qui a trait à leur nom alors qu'il y a toute une structure internationale? Les Nations Unies ont pris le temps pour établir une liste des pays et de nous attribuer un numéro à chacun des pays. Je voudrais enfin vous faire je voudrais vous signaler que, en plus du critère de communauté qui doit être considéré, il y a aussi un critère lié à une perception erronée. L'emploi des noms géographiques reflétant un nom officiel pourrait donner lieu à une association erronée de l'offre d'un service comme une communauté déterminée. Il y a cette concurrence déloyale apparaît là aussi dans ce critère. Voilà donc un point qui donne lieu à un vaste débat. Je trouve que c'est une très bonne idée que nous débattions tous, mais nous ne pouvons pas prétendre que l'on soit limité à la position d'un seul pays qui n'est pas d'accord sur ce point-là et que le thème ne soit plus discuté. Le thème va continuer à être débattu et ce débat sera toujours actif jusqu'à ce que nous puissions parvenir à éclairer, à clarifier tous ces points. Je crois que ce serait très utile qu'au moins tous les pays qui sont représentés au sein du GAC puissent faire comprendre au secrétariat sur un plan individuel quelle est la législation, la loi dans chacun de nos pays, comment nous protégeons nos noms géographiques, comment nous les protégeons jusqu'ici. J'espère que nous pourrons parvenir à une position plus claire. Le fait que le Pérou, le Brésil et les pays de la région de l'Amazonie, le fait que nous ayons pu tirer au clair la question de la candidature, de l'inscription de la candidature de Point Amazon. Cela ne nous oblige nullement à acheter ou à assumer ou à gérer un Point Amazon. Voilà la liberté souveraine de chaque pays. Et il en va de même pour Point Patagonia. Donc si vous n'utilisez pas Point Patagonia, c'est quelqu'un d'autre qui doit s'en servir. Tu perds ton droit. C'est-à-dire, moi, je peux m'attendre donc à ce que demain, si quelqu'un vient à l'idée qui lui vient à l'esprit de vendre Point Cusco, bon, il y a un groupe de personnes qui s'intéressent à l'archéologie ou qui s'intéressent à, je ne sais plus, à la vente de services de médecine douce. Non, ce n'est pas comme ça. Le Cusco, c'est une partie de Pérou. Cela fait partie de notre histoire. C'est une partie d'une communauté. Et les milliers dont vous parlez n'ont aucune représentativité face aux millions que je représente. Merci, Milagros. Merci.
L'Argentine prend la parole. Je coïncide avec tous vos commentaires. La Belgique. Belgique prend la parole. Je vais parler en français.
Merci. J'en profite pour remercier les interprètes également. Alors, avant tout, je voudrais remercier Olga et, si j'ai bien compris, Michel aussi, pour la qualité du rapport qui a été présenté. Il est particulièrement bien rédigé, bien documenté également. Ça a été très utile pour nous de pouvoir consulter l'ensemble des documents. Et donc, je voudrais vous remercier parce que je pense que ce travail n'était pas évident du tout. Je voudrais aussi remercier les membres du panéliste qui se sont déplacés ce matin et qui sont venus nous présenter leur point de vue. Pour ma part, je vous donnerai le point de vue d'un gouvernement élu démocratiquement et qui défend l'intérêt public. Et ça veut dire également défendre l'intérêt public, défendre le respect des traités internationaux, notamment les traités sur les droits des marques. Alors, évidemment, je vais revenir sur le point SPA et je voudrais vous expliquer à nos collègues ce qui se passe quand il n'y a pas de règles claires. Le cas du point SPA est un précédent révélateur qui doit nous inspirer la plus grande méfiance par rapport aux règles actuelles et l'implication qui en est faite par l'ICANN. Pour rappel, le GAC a reconnu à plusieurs reprises le caractère géographique du nom de domaine point SPA et il a classé à côté des noms géographiques problématiques dans ses avis depuis Pékin, à côté des points Patagonia, des points Amazon, mais aussi Daté, Shenzhen et Guangzhou. Excusez-moi pour l'accent pour nos collègues chinois. Le gouvernement belge a directement manifesté son souci auprès de l'ICANN et a explicitement demandé à l'ICANN de reconnaître le caractère géographique du nom SPA. Pourtant, l'ICANN a simplement considéré qu'il s'agissait d'un nom commun. C'est peut-être le cas aux États-Unis et en Asie, mais ce n'est pas le cas du tout en Europe. La Belgique, pourtant, s'est voulue constructive dans ce dossier. Elle ne s'est plus opposée à l'attribution au sein du GAC, pour autant qu'un accord intervienne avec les autorités locales. Cet accord a été conclu avec un des deux candidats, mais à nouveau, l'ICANN a décidé de ne pas en tenir compte et nous allons probablement maintenant vers une mise aux enchères. Voilà donc ce qui se passe quand il n'y a pas de règles claires. Par conséquent, j'invite les membres du GAC, mes collègues, à être particulièrement prudents et exigeants dans la définition même des noms géographiques, car le risque d'une interprétation unilatérale et non motivée, puisque nous n'avons jamais eu l'explication, par l'ICANN est réel. Quand un État, et plus encore, quand le GAC considère qu'il s'agit d'un nom géographique, nous estimons que l'ICANN ne devrait pas pouvoir s'en écarter et qu'un accord avec les autorités concernées devrait être exigé. Ça n'est pas non plus au seul candidat de déterminer le caractère géographique ou non. Et donc j'irai même plus loin que dans le rapport qui est présenté. Il n'y a pas que le candidat qui peut lui-même déterminer qu'il s'agit d'un nom géographique. Chaque État devrait pouvoir lui-même s'adresser à l'ICANN et considérer qu'il s'agit d'un nom géographique. Enfin, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on aurait plus de droit de protéger le nom de notre État ou de certains territoires que le nom de ville. Donc, je suis tout à fait ouverte à la concertation, évidemment, avec nos collègues du CCNSO, bien évidemment. Mais nous avons eu un mandat dans les avis du GAC pour créer ce groupe de travail, et donc nous sommes attendus au tournant et nous devons rendre un avis. Donc je pense que la concertation est la bienvenue, mais certainement pas la suspension de nos travaux pour que nous attendions l'avis du CNSO sur ces matières, ces CNSO sur ces matières, et qu'il soit presque, je dirais, trop tard pour réagir et pour donner le point de vue des gouvernements. Merci.
Merci la Belgique. Mr. Chair.
Thank you. Well, actually...
Thomas Schneider prend la parole. Merci beaucoup. Je suis participant ici, ce qui est bien. Je vais juste réagir un petit peu par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il est vrai que nous sommes à un moment où il faut préciser comment nous travaillons par rapport à cette question au niveau du GAC et comment travaillent les autres qui interagissent avec nous pour voir quel est le point de vue du GAC, quel est le point de vue des différents membres du GAC. Je pense que c'est une question à laquelle nous devons réfléchir au niveau de la direction du GAC pour essayer de identifier une façon pour un moyen d'avancer sans qu'il y ait confusion. Il faut tirer des apprentissages, des expériences qui ont eu lieu. C'est très utile et c'est l'un des commentaires que je voulais faire. Puis, je voulais vous donner des exemples concrets qui pourraient nous aider à trouver des solutions pour ces difficultés. Nous vivons dans un pays où l'adjectif suisse a une signification pour certaines personne, par exemple, Suisse est un mot avec lequel on peut jouer en tant qu'adjectif ou en tant que nom. Il y a une connexion avec ce nom. Nous avons d'autres compagnies de couteaux, par exemple, qui a ce nom. Nous avons beaucoup de ONG. Il y a d'autres parties prenantes qui utilise ce mot « Suisse ». Dans notre cas, avec la candidature Point Suisse, nous avons eu une consultation auprès de la société civile et de l'administration suisse pour qu'il n'y ait pas de droit exclusif. Parce que pour utiliser ces cinq lettres en tant que TLD, ne doit pas être exclusif à une seule personne. Il faut trouver un moyen pour pouvoir partager ce nom entre tous ceux qui veulent l'utiliser. Il peut y avoir des raisons culturelles, historiques, des raisons liées à des marques. Il peut y avoir plusieurs raisons. Et nous essayons de développer une consultation pour que l'on puisse se mettre d'accord, pour que l'on puisse expliquer la position des uns et des autres et voir comment trouver une façon de partager ce nom, essayer de trouver un moyen de compenser les autres au cas où il y aurait un seul qui utiliserait ce nom, mais de manière générale, essayer de ne pas s'exclure les uns les autres. Il y a un enjeu qui est très important. Ce n'est pas seulement le droit à utiliser le nom d'une ville, comme c'est par exemple le cas de Berlin. Et soit ces droits sont partagés, soit les plus petits disent si vous nous compensez de façon à ce que nous ne soyons pas, ce qui n'est pas un préjudice pour nous. Cela pourrait être un moyen aussi pour essayer de trouver un mécanisme où l'on puisse présenter sa candidature fondée sur des arguments réels et trouver donc un mécanisme pour trouver un consensus, un moyen consensuel de résoudre cette question afin que cela puisse être partagé. Olga Cavalli prend la parole. Merci. J'ai la Norvège, le Pays-Bas, le Koweït et trois autres personnes au fond de la salle. Et puis je vais clore la liste car nous n'avons pas trop de temps. La Norvège, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous êtes le premier. Excusez-moi. L'Allemagne d'abord, après les Pays-Bas. Le Royaume-Uni. Robin et puis les deux personnes au fond de la salle. Et là, je vais clore. Je vous demande d'être bref parce que nous devons clore notre séance d'ici peu. Merci beaucoup pour cet enthousiasme et pour ces commentaires. Merci beaucoup. L'Allemagne prend la parole. Merci de cette présentation. Permettez-moi de faire un commentaire bref par rapport à la position selon laquelle les noms géographiques n'ont pas de protection juridique. Je pense que ce n'est pas vrai pour toutes les juridictions. Nous avons des juridictions où il y a des protections. Je voulais faire référence à une déclaration qu'a faite notre collègue de l'Autriche par rapport à l'utilisation du terme Autriche, Austria, qui est légalement protégé par la Constitution de l'Autriche et qui ne peut pas être utilisé par d'autres parties sans permission du gouvernement de l'Autriche. Je pense que c'est un exemple où nous avons ce type de protection. J'ai trouvé que, conformément à notre code civil, nous avons une protection légale pour les noms géographiques. Et nous avons pris quelques décisions, nos tribunaux ont pris des décisions pour la protection de ce type de nom dans le passé. Je voulais également saluer ce qu'a dit notre président par rapport au besoin de trouver une approche pour trouver un compromis ou un terrain d'entente pour pouvoir avancer, y compris le fait de trouver un moyen de faire en sorte que tous les participants puissent donner leur avis dans ce type de décision. J'insiste sur nos droits. Parfois, il est difficile de trouver une solution satisfaisante pour tous. Olga Cavalli prend la parole. Merci beaucoup, l'Allemagne. La Norvège. Norvège prend la parole. Merci beaucoup, Olga, pour ce travail, pour ces efforts que vous avez faits et pour faire avancer cette question et faciliter les discussions sur ce point aussi important de la protection des noms géographiques. Je voulais tout juste dire que ce document de travail, ce document préliminaire de travail et les commentaires que nous avons reçus ont mis l'accent sur des aspects extrêmement importants et dont il faut tenir compte pour le travail qui se fera dans l'avenir. Je voulais également dire que notre grande priorité, c'est la protection des noms de pays et de territoires. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, sur la base des commentaires qui ont été faits, ce groupe de travail intercommunautaire a une tâche spécifique, à savoir la protection des noms de pays à la lumière de l'expérience de la première série de candidatures. C'est important donc que le GAC puisse faire un suivi de cette question, que le GAC participe à ces discussions afin que l'on puisse trouver un moyen de protéger ces noms dans les nouvelles séries, dans les prochaines séries. La deuxième question concerne la protection des noms géographiques de manière générale, y compris ceux qui ne se trouvent pas sur des listes. Et il est important que nous nous penchions sur cette question également pour savoir comment nous pouvons faire avancer ces discussions, y compris au sein du GAC. Il est important que nous nous penchions là-dessus. Je sais qu'on a d'autres discussions internes, mais comme le président l'a dit, il est important que nous puissions en discuter pour savoir ce qu'on aura à faire dans l'avenir. Merci beaucoup pour ces efforts de faire avancer cette question. Et Olga Cavalli prend la parole. Merci beaucoup, les Pays-Bas. Pays-Bas prennent la parole. Merci beaucoup, Olga. Merci à vous, aux personnes qui ont travaillé avec vous, et je pense que c'est important parce que c'est l'un des moyens novateurs d'essayer de participer bien en amont à ce type de discussion. Un commentaire. Je voudrais. J'ai entendu un commentaire par rapport auquel on disait qu'il y a beaucoup d'unités constitutives qui sont contre cette proposition. Je pense que je suis au moins très conscient du fait que les gouvernements agissent dans l'intérêt public. Le Pérou l'a bien affirmé. Il y a beaucoup de gens derrière nous. Nous sommes responsables vis-à-vis de nos parlements par rapport à ce que nous faisons dans l'intérêt de nos citoyens. Il y a certaines unités constitutives qui sont contre la protection. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je pense que la responsabilité est de représenter les utilisateurs. Et je pense que l'ICANN doit agir dans l'intérêt public. Ces intérêts sont importants. Il faut qu'ils soient pris en compte. Il ne devrait pas y avoir des barrières pour entrer dans les marchés. Les Pays-Bas sont dans une économie mondialisée et nous voulons attirer le business. Mais l'intérêt public est quelque chose qui vient en premier. Donc, pour moi, il est trop tôt pour refuser la proposition. À mon avis, il faut continuer à travailler. Olga Cavalli prend la parole. Merci beaucoup. J'ai le Koweït. Koweït prend la parole. Tout d'abord, je tiens à souligner notre soutien à la déclaration du Pérou et de la Belgique à ce propos. Nous sommes très satisfaits du progrès fait par le sous-groupe et nous espérons avec impatience les résultats et nous espérons que ces résultats puissent être partagés avec le sous-groupe sur les noms géographiques, le groupe communautaire sur les noms géographiques. Je pense que l'approche du document est positive. Il est positif, pardon, que ce document ait fait l'objet d'une consultation publique et nous espérons qu'il y aura un résultat positif de tout cela. Olga Cavalli donne la parole au Royaume-Uni. Royaume-Uni prend la parole. Merci beaucoup, Olga. Je voulais saluer le travail que vous avez fait sur cette question. Cette proposition soulève des points critiques concernant l'intérêt public, l'intérêt général, autant au niveau de la communauté commerciale qu'au niveau des autres communautés. Et l'exercice a été très intéressant, y compris les résultats de la consultation publique. Et cela nous oblige à faire le bilan des réponses que nous avons obtenues, ce qui représente des défis que nous avons à relever. Je pense qu'il faut prendre la mesure des difficultés et des enjeux que représente cette question. Il faut prendre en considération tout cela. Et pour savoir comment avancer, je ne suis pas très sûre. J'ai un peu le sentiment que certaines attentes de la proposition ne sont pas très réalistes. Et c'est pour cela que la consultation a été très intéressante. Car elle vise à réaffirmer une réserve que j'avais manifestée un certain temps avant, à savoir que la construction d'un cadre de protection comme celui envisagé dans le document n'est pas facile. Et ici, je tiens à souligner deux aspects. D'un côté, souligner l'importance de prendre en compte le contexte de l'utilisation des noms géographiques. Et ce contexte, il est tellement large. Bien entendu, les États s'en servent. Les commerces ou les entreprises s'en servent, les individus s'en servent. Il y a des noms qui peuvent être associés à des noms de pays. Nous avons un musicien, Jules Holland, au Royaume-Uni, et il y en a d'autres exemples. Et je suis tout à fait conscient des soucis de la communauté commerciale, tout comme les Pays-Bas l'ont souligné tout à l'heure. Dans quelle mesure ces noms géographiques sont utilisés dans le secteur commercial? On le sait bien. Et cela remonte à des générations, dans certains cas, des commerces locaux qui se sont développés avec un lien très fort avec les noms géographiques. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un groupe intercommunautaire qui travaille là-dessus. Nous devrions y participer ou dialoguer avec ce groupe. Travaillons donc avec ce groupe de travail intercommunautaire et puis essayons de tirer des enseignements pour voir comment avancer. Je pense que ce serait la meilleure façon de procéder et je pense que ça a été un exercice vraiment intéressant, celui qui a été mis en place, car il a pu articuler les différents points de vue de manière très efficace. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé. Olga Cavalli, merci beaucoup. Royaume-Uni, il y a trois autres orateurs au fond de la salle. Je ne vois pas très bien. Il y a Robin et je m'appelle Robin Crosby. Mon organisation a fait des commentaires par rapport à mon organisation a un commentaire par rapport à ce commentaire qui, par rapport à cette proposition qui a été signée par 24 personnes et organisations. Il est malheureux que l'on n'ait pas permis la participation des utilisateurs non commerciaux dans le panel. Je vais faire un commentaire par rapport à nos inquiétudes concernant cette proposition. Nous voulons être très prudents en ce qui concerne son adoption car elle affecte la liberté d'expression. Il empêche également l'innovation et porte préjudice au modèle multipartite de gouvernance de l'Internet. Cette proposition a des défaillances au niveau des hypothèses juridiques en matière de biens publics ou d'intérêt public et ce n'est pas faisable. Elle se base sur une mauvaise interprétation de la loi. Ce document essaie de dire qu'il se focalise sur les noms géographiques, mais il n'y a rien dans le droit international qui soutienne la création de droits au niveau international pour protéger ce type de mots ou l'utilisation de ce type de mots dans les systèmes des noms de domaine. La proposition est aussi basée sur des hypothèses contestables sur ce que c'est que l'intérêt public et n'applique pas correctement le droit applicable. En ce qui concerne les implications de la mise en œuvre de cette proposition, elle pourrait avoir un impact significatif sur la liberté d'expression sur le DNS car elle propose une espèce de censure qui ignore la liberté d'expression et les droits en ce qui concerne les noms de domaine. Cette proposition n'est pas faisable du point de vue pratique, elle n'est pas viable parce qu'elle limite l'utilisation de catégories pour un grand nombre de catégories de mots. Cette catégorie est tout à fait arbitraire. Vu la signification de chacun de ces mots dans plusieurs langues dans le monde entier, il serait impossible de prévoir lesquels de ces mots seraient autorisés ou pas dans un GTLD. En outre, dans la proposition envisage beaucoup d'autorisations très complexes avant de pouvoir se faire déléguer un GTLD, ce qui va porter préjudice à l'innovation. L'ICANN n'est pas l'endroit correct, le bon endroit pour mettre en place ou pour créer des processus en termes de propriété intellectuelle. L'ICANN est un organe technique, ce n'est pas un forum de droit international pour créer les droits d'usage exclusif de certaines catégories de mots. Cette proposition n'est pas équilibrée, elle est trop large en ce qui concerne la catégorie de mots, elle est trop vague en ce qui concerne les autorisations nécessaires. Et c'est pourquoi nous considérons que avancer avec cette proposition irait à l'encontre de la liberté d'expression en matière de noms de domaine et cela impliquerait une censure de la part des gouvernements au niveau du DNS. L'Argentine reprend la parole. Merci beaucoup, Robin. C'est un dialogue. Nous aimerions recevoir des propositions pour savoir comment avancer. Merci beaucoup. Deux orateurs et puis nous allons clore cette séance.
Pardon, je n'ai pas de son.
La NTIA est une organisation Nous avons plus de 6000 membres. En plus des individus, nous voulons faire un commentaire par rapport à cela sans répéter ce qui a été dit auparavant. J'aimerais dire à tous les membres du GAC, demander aux membres du GAC de lire les commentaires parce qu'un résumé n'est pas suffisant, notamment parce que parfois dans le résumé, il y a des points qui ne reflètent pas clairement ce que nous avons voulu dire. Comme nous l'avons déjà dit et comme cela a été signalé avant, la proposition n'a aucun fondement de droit international pour que le gouvernement puisse refuser la délégation de nom avec une signification géographique. Il existe des droits à la concurrence par rapport aux noms qui doivent être équilibrés et il n'y a pas un seul droit qui puisse prévaloir sur autre. Nous croyons que les noms géographiques sont une question sensible pour beaucoup de gouvernements, mais il y a des gouvernements qui sont obligés à être régis par l'état de droit, y compris quand on parle des droits de protection de marques commerciales. Et c'est en respectant les principes établis que l'ICAM peut s'assurer de répondre aux intérêts publics. Les gouvernements ont cherché un avis expert sur cette question et nous considérons que c'est important qu'ils le fassent avant de pouvoir débattre de cette proposition. Dans la mesure où les gouvernements individuels ont cherché à obtenir l'avis d'experts de leur propre gouvernement, par exemple au Royaume-Uni, nous espérons recevoir cet avis juridique. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Très brièvement, Edmond du Conseil de la GNSO prend la parole. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Cette proposition crée des droits en ligne et en plus, je pense qu'elle va contre la liberté d'expression. J'ai vécu aux États-Unis, au Royaume-Uni, et j'aimerais utiliser l'expression pour déterminer à qui je dois contacter, si, par exemple, il y a des idées d'une région en particulier. Olga prend la parole. Je ne pense pas que c'est une mauvaise idée. Merci à tous d'être là. Nous allons tenir compte de tous les commentaires qui ont été faits et nous allons produire une nouvelle version du document. Merci beaucoup.